Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Des rixes entre jeunes qui tournent au drame à Mantes-la-Ville, Garges-lès-Gonesse, mais aussi à Angoulême ou dans certains arrondissements parisiens. Ces dernières semaines, la presse s'est fait l'écho de bagarres, à coups de barres de fer, de battes de baseball. Et ce week-end, un jeune de 13 ans est mort dans l'une d'elles, au Lila, où Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur donc, a fait son premier déplacement hier. Peut-on pour autant parler d'une recrudescence de la violence et des rivalités entre bandes ? Bonjour Christophe Soulez.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors s'agit-il d'un phénomène nouveau, ces rivalités entre bandes avec de très jeunes victimes ?
Non, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui est ancien. Le problème, c'est que c'est un phénomène qu'on a du mal aujourd'hui à mesurer parce qu'on ne dispose pas nécessairement des outils statistiques pour pouvoir dire effectivement si on est face à quelque chose qui augmente ou qui est plutôt en baisse. D'autant qu'on a beaucoup aussi à se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est une bande, à partir de combien de personnes, quel type d'activité, structurée ou non.
Et alors, quelles sont les différentes hypothèses ? Parce que on sait par exemple qu'aux États-Unis, il y a des bandes extrêmement structurées. Assiste-t-on à la naissance de ce type de phénomène en France ? Est-ce que c'est déjà le cas ?
On a de tout. On a des bandes effectivement qui sont structurées, organisées, professionnalisées, qui sont principalement tournées vers une activité criminelle, notamment liée à l'économie souterraine et au développement du trafic de stupéfiants. Mmh. Et puis on a beaucoup de bandes qui sont des bandes de quartiers qui ne sont pas nécessairement structurés, qui vont se réunir spontanément selon les opportunités et qui, elles, vont beaucoup plus attacher à tout ce qui est contrôle du territoire et surtout, généralement, à la défense de la réputation d'un quartier. On est généralement sur des questions d'honneur, de respect, avec des rivalités qui peuvent être anciennes et d'ailleurs dont souvent les protagonistes ne se souviennent même plus l'origine.
Et alors, le fait que ces bandes, ou en tout cas ces individus, s'affrontent de manière extrêmement violente, on a la sensation qu'il y a une sorte d'ensauvagement, que cet ensauvagement, il débute très tôt, puisqu'on a des victimes qui sont de jeunes adolescents. Est-ce le cas ? Est-ce un effet de perspective ?
Alors, il y a toujours des fois des très forts affrontements avec des violences importantes, de la part aussi de jeunes mineurs. Voilà, le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir si c'est, un effet qui concerne vraiment beaucoup de bandes ou si c'est juste un effet médiatique, un effet qui rend aussi ces événements beaucoup plus visibles, notamment par le biais des smartphones et des réseaux sociaux. On a aussi une visibilité plus importante, une exposition beaucoup plus importante de ce type de phénomène, avec effectivement un reflet médiatique et une conjonction aussi de faits qui portent une attention particulière.
Mais alors, ça veut dire que finalement, la violence des très jeunes, elle n'est pas nouvelle, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, ou bien il faut faire quelque chose.
C'est perdu. C'est parce qu'on arrive, même si ce n'est pas nouveau, on peut s'en inquiéter parce qu'on n'arrive pas à y mettre un terme. La délinquance des mineurs, le fait qu'on dise depuis maintenant un certain nombre d'années, moi je sais qu'il y a déjà 15 ans, on parlait d'une aggravation de la délinquance des mineurs et d'une implication plus forte. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui, pour certains mineurs, qui représentent quand même une très forte minorité, des jeunes habitants ces quartiers, on n'a pas trouvé de parade, on n'a pas trouvé effectivement de moyens permettant de stopper à un moment donné l'escalade qu'on peut trouver effectivement dans certains quartiers à travers des rivalités qui en plus et qui sont des rivalités généralement avec des conséquences très graves mais sur des motifs très futiles, un regard de travers, un mauvais regard, un mot de trop, un bouton volé, et voilà, c'est surtout ça sur lequel on peut s'inquiéter.
Mais alors, en mars 2016, le procureur de Paris, dans un article du Monde, donc François Molins, évoquait donc la recrudescence des bandes. Et alors, il y avait des chiffres qui étaient avancés. On parlait de 90 bandes organisées en France, dont près de la moitié à Paris et dans sa proche banlieue. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont corroborés aujourd'hui ? D'où sortent-ils ?
C'est un chiffre qui paraît quand même assez faible, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 1300 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et que dans ces quartiers, dans au moins dans ces quartiers, il y a des bandes, alors qui ne sont pas nécessairement des bandes structurées, organisées, mais des bandes en tout cas, des groupes de jeunes qui peuvent se réunir, notamment contre les forces de l'ordre, pour essayer de contrôler un territoire ou affronter d'autres quartiers. Donc ce chiffre me paraît assez minoré, sauf si véritablement, effectivement, on parle de bandes structurées, organisées, tournées exclusivement vers une finalité criminelle. Là, peut-être que c'est exact, même dans ce domaine-là, le chiffre me paraît quand même assez faible.
Finalité criminelle, c'est quasi exclusivement le trafic de drogue ou bien il y a d'autres causes à ces bandes criminelles ?
C'est principalement le trafic de stupéfiants, mais ça peut être aussi d'autres types d'activités. Ça peut être le trafic des véhicules volés, ça peut être également parfois, mais on a des bandes qui sont polycriminelles, c'est-à-dire qui sont multicartes. Ça peut être aussi parfois le proxénétisme, mais on est quand même principalement vers le trafic de stupéfiants. stupéfiants et principalement aussi dans le trafic de stupéfiants, le trafic de cannabis.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces bandes, Christophe Soulez, vous qui êtes responsable de l'Observatoire national de la délinquance?
Non, notamment quand on s'attache, je dirais, aux plus jeunes, c'est l'éducation, c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de jeunes, il y en a encore beaucoup qui sortent du système scolaire sans qualification, sans formation, sans même savoir lire et écrire. Donc il y a vraiment un travail en amont à faire. Et puis après, c'est toute la chaîne, toute la filière pénale qui doit être aussi engagée à un moment donné dans les politiques publiques sur la lutte contre les bandes, la lutte contre la délinquance même en général, ne doit pas porter exclusivement sur le ministère de l'Intérieur et ne doit pas être uniquement sous le prisme des actions de la police et de la gendarmerie. C'est effectivement l'éducation spécialisée, c'est l'éducation nationale, c'est la police, puis après c'est la justice, hein, c'est la prise en charge des personnes éventuellement qui sont interpellées au sein du système pénitentiaire. Et généralement, jusqu'à maintenant quand même, on a toujours eu des politiques publiques qui se sont assez focalisées sur les moyens et sur les effectifs policiers et assez peu sur les autres acteurs. Donc avec des administrations et des acteurs qui ne marchent pas nécessairement au même rythme et avec les mêmes moyens.
Mais oui, parce que quand on a affaire à des protagonistes qui ont 12, 13 ans, bon, là, il est quand même difficile de dire qu'on va utiliser des moyens traditionnels de répression et de police. On a affaire...
C'est effectivement en amont qu'il faut essayer de prendre en charge ces jeunes qui, généralement, voilà, sont sortis du système scolaire, ou en tout cas, ils sont très mal, donc avec... nécessaire action très forte de l'éducation nationale, ce qu'on appelle à partir de ces jeunes qu'on appelle les décrocheurs, et qui leur permettrait justement de pas aller dans une bande. La bande, il faut voir aussi que c'est un refuge, c'est une seconde famille. C'est là où on peut contester l'autorité familiale. C'est là où généralement on passe le plus de temps même en dehors de l'école. Donc c'est aussi à un moment donné un lieu de socialisation. Et si cette bande est un lieu de socialisation négative, c'est-à-dire si on y apprend à un moment donné des techniques de délinquance et qu'on y trouve un certain confort, notamment en matière d'obtention de revenus, alors pas de revenus pour vivre, mais de substitution pour s'acheter des tennis, etc., ça peut effectivement, après, devenir le début d'un lieu de carrière criminelle.
Merci Christophe Soulez. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.